L'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Rock.
Bonjour et bienvenue sur British Connection. Ici Patrick Coutin. Je suis venu vous présenter un livre sur Jim Morrison et les Doors. Alors qui suis-je, vous allez me demander, pour parler de Jim Morrison et les Doors? Bon, d'abord, je suis quelqu'un qui a été journaliste pendant de nombreuses années à Rock et Folk et dans divers autres journaux comme Télérama. Et puis je suis aussi, pour ceux qui connaissent un peu la musique des années 80, l'auteur, le compositeur et le chanteur d'un morceau qui s'appelle « J'aime regarder les filles ». Alors, ce Jim Morrison, je l'ai écrit récemment, il est sorti juste après la Covid. C'est un livre qui m'a été demandé d'abord par un dénommé Stan Questal, lui aussi journaliste et directeur de Connexion, notamment chez Gallimard où est paru ce livre. Et quand il m'a demandé d'écrire sur Jim Morrison, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, mais pourquoi moi d'abord? D'autant qu'en même temps, il prépare un livre sur Janis Joplin et que je suis un méga fan de Janis Joplin, mais aussi de Jim Morrison, il faut bien le dire. Et puis, petit à petit, l'idée a fait son chemin et je me suis replongé dans cette période fascinante de l'Amérique des années 65-66, où les Doors se créent, et sur un artiste qui reste extraordinairement controversé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque où Jim Morrison chantait, il y avait des gens qui l'adoraient, qui l'idolâtraient. Il a influencé des personnes aussi diverses que Iggy Pop, par exemple, qui a commencé sa carrière rêvant d'être Jim Morrison, mais aussi tout le mouvement punk américain plus tard. Et alors que pourtant, c'est un artiste qui était fondamentalement imprégné de blues. Et c'est tout aussi un chanteur détesté par le système américain, mais aussi par une certaine intelligentsia américaine qui le trouvait trop extroverti, trop sexy, parce que c'était un très beau garçon qui avait une très belle voix, très grave, et qu'il se servait un peu de ce côté glamour pour charmer les jeunes Américains. Donc nous allons parler de tout ça au travers de quelques anecdotes, de quelques passages, et puis nous écouterons bien évidemment quelques chansons. Je vous propose de commencer par le premier tube des Doors et de Jim Morrison qui s'appelait Light My Fire. C'est le guitariste Robbie Krieger qui avait écrit cette chanson et Jim Morrison qui en avait écrit le texte. Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy.
Avec les Doors, on est tout de suite dans les superlatifs et dans l'exagération à tous les niveaux. Jim Morrison amène avec lui une sorte de folie, d'intensité, de jamais dormir, tout le temps aller jusqu'au bout, de la drogue, de l'alcool, des aventures sexuelles. Même si le groupe est un peu plus calme autour de lui, et la carrière est terriblement rapide, c'est-à-dire que le premier album sort en janvier 1967. Ils ont passé une année environ à tester leurs compositions dans les clubs de Los Angeles, dont certains sont quand même des clubs importants, comme le Whiskey à Go-Go, de 600 à 1000 places environ, où les plus grands artistes sont passés. Le disque sort donc. Très rapidement, il devient un énorme succès et la chanson que nous avons écoutée, Baby, Come On, Light My Fire, devient un tube en tête des charts. Et les Doors sont immédiatement un des groupes qui tournent le plus et qui attirent le plus d'engouement dans le paysage américain. Le 1er juillet 1970, Jim Morrison meurt à Paris, dans sa baignoire, officiellement en tout cas. Donc on est dans une histoire qui aura duré à peine 4 ans, puisqu'il a quitté le groupe en décembre 1969. En 4 ans, les Doors produiront plusieurs albums, 5 ou 6, et s'arrangeront pour devenir finalement un des groupes références de ces années et de l'histoire du rock. C'est aussi un groupe qui, paradoxalement, de nombreuses années après sa disparition, on parle des années 70, donc il y a plus de 55 ans bientôt, reste un groupe qui provoque soit l'amour, soit la haine. C'était le cas quand ils ont eu tout ce succès. L'establishment américain avait fait de Jim Morrison, qui était pourtant le fils un peu maudit d'un amiral de l'armée américaine, important, en opposition avec son père, en révolte avec son père. Jim Morrison était évidemment détesté de tous les gens bien-pensants et de la bonne société américaine, et en même temps, des intellectuels souvent qui le trouvaient trop sexy, trop excessif. Mais il était aussi adulé de fans, de tout un mouvement rock qui était en train de naître et de se développer. Je vous propose maintenant d'écouter Waiting for the Sun, qui lui est dans le troisième album des Doors.
Yeah.
Aujourd'hui, lorsque l'on parle de rock, on parle avant tout d'une musique et de ses variantes, rock'n'roll, heavy metal, hard rock, pop rock, blues rock, et j'en passe parce qu'il y a autant de variantes que possible. Dans les années 60, quand le rock arrive, parce que c'est une musique qui n'existait pas, ce n'est pas qu'une musique, c'est plus une attitude par rapport au monde et à la société, une attitude un peu réfractaire, rebelle, une attitude d'une jeunesse qui ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs que leurs parents et leurs grands-parents ont fait, c'est-à-dire les guerres, c'est-à-dire le racisme avec, il y a encore le souvenir de la Shoah, et donc d'une jeunesse qui veut un peu prendre le pouvoir, en tout cas dans les idées. Ça crée d'ailleurs beaucoup de dissensions, puisqu'il y a plus que des dissensions, des mini-révoltes, comme mai 68 en France, mais aussi des révoltes aux USA, en Angleterre, dans le bloc communiste de l'époque, un peu partout dans le monde. Et cette attitude rock, on la retrouve dans la musique, bien évidemment, mais aussi dans le cinéma, dans la littérature, dans la poésie, dans tout ce que l'on peut imaginer comme forme d'art, mais c'est aussi, avant toute chose, une forme de vie. Et c'est une forme de vie un peu extrême. Parce que pour casser les codes de ce vieux monde, qui est quand même très, très fort, hein, tout ce qui fonctionne, fonctionne plutôt pas mal, l'économie fonctionne bien, donc c'est un système qui n'a pas trop envie d'être remis en question. Pour casser les codes de ce système, cette jeunesse, dont je faisais partie à l'époque pour tout dire, s'empare d'à peu près tout ce qui peut exister, donc l'art, la culture, la musique notamment, mais aussi des choses qui sont plus controversées comme l'usage des stupéfiants, créer des espèces de communautés dans lesquelles on essaie d'explorer un monde parallèle, et aussi dans une certaine façon de vivre plus bohème sur la route, et c'est accompagné d'une immense libération sexuelle, en même temps que d'idées nouvelles à l'époque comme l'écologie, mais aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, la volonté d'arrêter de se comporter en colonisateur du reste du monde, etc. Les Doors sont un peu le symbole de cette révolution qui ne dit pas son nom, en Amérique certes, avec le mouvement hippie, mais aussi en Angleterre et finalement dans la totalité du monde. Pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, peut-être le plus emblématique des morceaux et des nombreux tubes qu'ont écrit les Doors, issu du dernier album, Ellie Woman.
filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam.
British Connection, avec vous depuis 1982. You rock!
C'est la troisième partie et fin de l'album de la semaine. Il s'agit de Tago Blaster.
Plan B, c'est l'un des derniers morceaux qu'on a enregistré avec Stéphane. En fait, quand je lui apporte les 12-15 démos de l'album pour les lui faire écouter, Plan B n'existe pas encore. Et comme d'hab, avec Steph, on parle beaucoup, on boit beaucoup de thé. Et à un moment, il évoque Digital Laser et leur album Warm Brother, que je connaissais pas du tout. Il me fait écouter vite fait, on survole l'album, hein, on prend pas le temps non plus d'écouter en détail, mais ça me marque direct. En même temps, c'est un, groupe de garage rock qui fait un peu de punk, un peu de synth pop. Donc il y a de grandes chances pour que ça me plaise. Et ça me marque de fou. Et surtout à l'époque, ça faisait un moment que j'avais pas découvert de nouveaux groupes. Donc ça fait du bien, c'est rafraîchissant et ça me donne envie de composer. Et du coup, je compose derrière Plan B.
C'est la série live de mon...